BFM Business présente Actu, experts, débats et interviews des grands acteurs de l'économie. Guillaume Paul, Good Evening Business.
Guillaume Paul qui reviendra dans une petite dizaine de jours. On lui souhaite d'ailleurs de bonnes vacances. Bonsoir à tous, bienvenue, c'est Good Evening Business. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h en direct pour traiter l'actualité économique du soir avec une fois de plus une situation au Proche-Orient qui est tendue. Nous serons dans un instant avec notre correspondant Antoine Hollard à Washington afin de nous éclairer sur la situation qui est en cours. Deux invités, ce soir nous parlerons du secteur automobile qui, ça y est, a publié ses résultats entièrement. C'est Holding Porsche Holding qui a fermé le bal ce matin des résultats en Allemagne avec, on le verra, des publications qui sont plus que contrastées pour le secteur automobile. Et puis à 18h30, c'est Virgile Caillé qui sera avec nous, délégué général de l'Union Sport et Cycle, avec, on le verra, depuis quelques jours, depuis les Jeux Olympiques, un effet sport, hein, que ce soit dans les boutiques mais aussi dans les clubs. Comment faut-il s'attendre à ce phénomène à quelques jours maintenant de la rentrée? On lui posera la question dans une bonne demi-heure. Juste avant, à 18h02, c'est le journal qui s'ouvre, le journal de l'écho sur BFM Business.
Good Evening Business, le journal.
Avec l'actualité ce soir qui est une fois de plus dominée par la crainte d'un embrasement au Proche-Orient, l'Iran a rejeté aujourd'hui l'appel des pays occidentaux à renoncer à ses menaces contre Israël. Téhéran assure ne pas avoir à demander l'autorisation de riposter contre l'État hébreu après l'assassinat du chef du Hamas il y a quelques semaines, souvenez-vous. Pour nous éclairer ce soir, je vous propose de retrouver Antoine Hollard, notre correspondant à Washington. Bonsoir Antoine. Encore aujourd'hui, la Maison-Blanche se prépare au pire avec notamment Washington qui prévoit une série d'attaques conséquentes dans les prochaines heures.
Exactement, parce que les États-Unis redoutent une attaque imminente de l'Iran, attaque qui pourrait intervenir dans les prochains jours, c'est ce que dit la Maison-Blanche. Et c'est donc pour cette raison qu'ils ont déployé d'importants moyens militaires dans la région. Il y a déjà sur place un porte-avions et plusieurs navires de guerre. Un deuxième porte-avions est en route et le ministre de la Défense américain lui a demandé d'accélérer le rythme afin qu'il arrive le plus rapidement possible sur zone. Déploiement enfin d'un sous-marin lance-missile. Il y a clairement ici la volonté des Américains de montrer les muscles pour dissuader l'Iran de passer à l'action. En fait, la grande crainte de Joe Biden, c'est que la situation dégénère et que toute la région s'embrase. Les États-Unis redoutent en particulier une guerre totale entre le Hezbollah et Israël qui contraindrait les Américains à intervenir pour protéger Israël. Et ça, eh bien, c'est un scénario que Joe Biden veut à tout prix éviter à quelques mois de l'élection présidentielle. Il ne veut pas que les États-Unis se retrouvent empêtrés dans une nouvelle guerre. Et puis, en parallèle de tout cela, les Américains continuent leurs efforts diplomatiques. Ils espèrent la reprise des négociations en vue d'un cessez-le-feu à Gaza. Une trêve permettrait de faire retomber la tension. Les États-Unis espèrent que les négociations vont reprendre dès jeudi.
Merci Antoine. Antoine Hollard, notre correspondant à Washington, avec donc les États-Unis qui ont décidé de renforcer leur présence militaire au Moyen-Orient. À noter qu'une roquette s'est écrasée au large de Tel Aviv aujourd'hui, selon l'armée israélienne. Le tir aurait été mené depuis la bande de Gaza et revendiqué par la branche armée du Hamas palestinien. Dans ce contexte, toujours beaucoup de volatilité sur les cours du pétrole, hein, qui hier gagnait quasiment 3%, qui se détendent aujourd'hui avec une baisse d'un peu plus d'1%. C'est dans ce contexte que l'Agence internationale de l'énergie a revu ce matin ses prévisions pour le marché pétrolier pour 2025. L'AIE prévoit une croissance de la demande de 950 000 barils par jour, ce qui est une croissance certes, mais une croissance moins importante que lors de la précédente estimation. En cause, une lente reprise en Chine, la Chine qui contribue moins à la croissance du secteur pétrolier que les années précédentes. Aux États-Unis, la campagne américaine bat son plein. Donald Trump a tenu cette nuit une interview de plus de 40 minutes sur X, hein, vous savez, c'est l'ex-Twitter qui est aujourd'hui dans les mains de l'un de ses grands soutiens, Elon Musk. Un grand coup de communication pour Donald Trump afin de reprendre la main dans une campagne dans laquelle il perd des points face à Kamala Harris, hein, au point que dans les sondages ils sont désormais au coude à coude. Et à moins de 3 mois de cette élection présidentielle, les patrons de la tech, très influents aux États-Unis, sont aujourd'hui en pleine tractation, comme nous explique aujourd'hui Julien Thibault.
Marc Andreessen, les frères Winklevoss ou Joe Lonsdale, nombreux sont les grands dirigeants de la Silicon Valley à avoir apporté leur soutien à Trump ces dernières semaines. Un choc pour un secteur historiquement à gauche, les tentatives de Joe Biden pour réguler l'IA et les crypto-monnaies n'avaient pas joué en sa faveur. Mais le retrait de l'actuel président en faveur de Kamala Harris a rebattu les cartes. Originaire de la baie et ancienne procureure générale de Californie, la candidate démocrate est populaire dans la Silicon Valley. Présente dimanche dernier en Californie pour une levée de fonds, elle a récolté plus de 13 millions de dollars. Pour rappel, dans la semaine qui a suivi le départ de Biden, le camp démocrate a reçu 200 millions de dollars de dons. Les initiatives se multiplient donc en faveur de la vice-présidente. Reid Hoffman, cofondateur de LinkedIn, Marc Benioff, cofondateur de Salesforce, ou encore l'ancienne directrice de l'exploitation de Facebook, Sheryl Sandberg, ils ont tous déjà apporté leur soutien à la candidate démocrate. Malgré son image d'américain moyen, Tim Walz, nouveau colistier de Kamala Harris, pourrait bien lui aussi séduire les grands patrons de la tech américaine. L'an dernier, il avait bloqué une loi offrant aux chauffeurs Uber et Lyft une meilleure protection contre le licenciement.
Et puis bonne nouvelle pour les Américains, l'inflation se tasse. Vous savez, c'est une semaine importante aux États-Unis pour la conjoncture avec les chiffres d'inflation demain et la consommation jeudi. En attendant, ce sont les prix à la production qui ont été publiés tout à l'heure et ils montrent un tassement plus 0,1% au mois juillet par rapport au mois de juin quand le consensus s'attendait à une hausse de 0,2%. Au Royaume-Uni, cette fois, malgré le ralentissement économique, l'emploi continue de bien se tenir. Le taux de chômage a reculé, mais est toujours sur une forte dynamique, hein, 4,2% contre 4,4% au premier trimestre, quand dans le même temps, la progression des salaires continue d'être forte, avec des hausses de salaire de plus de 5% au deuxième trimestre, après 5,8% au premier. Mais pas d'emballement, hein, face à tout cela, puisque le ralentissement économique est toujours là et continue de nous suivre avec les exportations vers la Chine qui sont en repli et qui pèsent sur le moral des investisseurs en Allemagne, selon l'indice You qui a été divisé par deux le mois dernier. L'indice You qui constate que ces exportations en Allemagne continuent de peser sur le moral des investisseurs. Incertitude politique en France également dans la balance et puis une trajectoire politique incertaine pour la BCE. Tout ça plombe donc le moral des investisseurs en Allemagne. Dans l'actualité des entreprises, coup de tonnerre chez Starbucks avec l'enseigne américaine qui est sous pression depuis plusieurs semaines de part des fonds activistes qui aujourd'hui a décidé de remercier son directeur général. Ça plaît à la bourse, le titre prend un peu plus de 20% avec l'arrivée en cours de Brian Nichols, c'est l'actuel directeur général de l'enseigne Chipotle qui va prendre le relais à partir du mois de septembre. Les détails avec Julien Thibault.
Laxman Narasimhan n'aura tenu que 16 mois. L'actuel PDG de Starbucks paye les mauvais résultats de son entreprise au troisième trimestre. Les transactions ont chuté de 5% sur la période. La fameuse chaîne de café est en proie à une baisse d'activité depuis plusieurs mois déjà, sur fond de ralentissement de la consommation. Mais ce n'est pas le seul problème auquel fait face Starbucks actuellement. Cette décision intervient alors que la société est aux prises avec plusieurs actionnaires activistes qui poussent pour améliorer la gouvernance. Adoubé par Howard Schultz, patron historique de la chaîne de café, Brian Nichols aura fort à faire. Selon la présidente du conseil d'administration, Melody Hobson, c'est le profil idéal pour ce poste. Notre conseil pense qu'il peut être un dirigeant transformateur pour notre entreprise. Depuis l'arrivée de Brian Nichols chez Chipotle en 2018, il a notamment aidé la chaîne de nourriture mexicaine à se remettre d'un scandale d'infection alimentaire. L'action de l'enseigne a grimpé de 773% sous sa direction.
Voilà donc pour le dossier Starbucks et puis toujours aux États-Unis. Autre actualité intéressante, Home Depot, l'enseigne de bricolage, revoit à la baisse ses prévisions pour cette année face à une demande qui est toujours timide. Le groupe s'attend désormais à une croissance de ses ventes annuelles en baisse de 3 à 4% contre moins 1% auparavant. Le titre perd un peu plus de 4% à Wall Street. Et puis dans le secteur des énergies renouvelables, c'est toujours compliqué à l'image de Vestas qui va publier ses résultats demain matin. Le groupe danois qui est leader mondial dans la fabrication d'éoliennes a néanmoins d'ores et déjà prévenu aujourd'hui ses investisseurs qu'il revoyait à la baisse ses prévisions en cause une hausse des taux et puis surtout une inflation qui est toujours présente. Les détails avec Jean-Baptiste Huette.
C'est d'abord l'envolée des coûts des matières premières qui vient bouleverser les équilibres économiques de certains projets signés il y a maintenant plusieurs années. Ensuite, il subsiste toujours des difficultés d'approvisionnement, tensions sur la supply chain, quelques problèmes également de qualité qui viennent peser sur l'ensemble de la filière éolienne. Enfin, la Chine, plus que jamais en embuscade. Selon certains lobbies du secteur, les éoliennes chinoises peuvent être vendues en Europe à des prix jusqu'à 50% inférieurs à ceux de leurs concurrents européens. Bruxelles a d'ailleurs lancé au mois d'avril dernier une enquête sur les fabricants chinois d'éoliennes. Pour Vestas, les fondamentaux restent malgré tout bons. L'activité est saine, commentent les dirigeants. Le carnet de commandes a bondi de 54% sur un an. Ceci dit, les Européens vont devoir adapter leur logiciel pour résister. Jusqu'à présent, explique le cabinet Wood Mackenzie, les Occidentaux ont montré peu d'intérêt pour la réduction des coûts afin d'accroître la part de marché.
Voilà, Vestas qui va donc publier ses résultats demain, mais qui a d'ores et déjà revu à la baisse ses prévisions financières. En France, aussitôt la flamme olympique éteinte, aussitôt la politique reprend le relais avec le NFP qui a repris son bras de fer avec Emmanuel Macron hier. Lucie Castet a envoyé une lettre aux députés et sénateurs, à l'exception de ceux du Rassemblement National, dans laquelle elle dévoile sa feuille de route pour Matignon. Dans le même temps, Gabriel Attal a lui adressé aujourd'hui un courrier au chef de l'Assemblée nationale, sauf à ceux du RN et de LFI, pour former un pacte d'action pour les Français. Écoutons à ce sujet Aminata Niakate, c'est la porte-parole des écologistes.
Moi, je suis contente de voir que Lucie Castet inspire le camp présidentiel. Lucie Castet fait part de sa démarche de dialogue, de rechercher projet par projet une majorité à l'Assemblée nationale. La réponse du camp présidentiel qui exclut LFI du camp républicain, moi je la trouve assez choquante. Des élus, des candidats de la France Insoumise se sont désistés pour faire élire des candidats de camp présidentiel et la France Insoumise fait partie intégrante du nouveau front populaire et on est un bloc. Et la lettre de Lucie Castet, qui est cosignée par tous les groupes du Nouveau Front Populaire, y compris le président du groupe de la France Insoumise, ça démontre bien qu'on est un bloc uni et ça restera ainsi.
Aminata Nakaete, porte-parole des écologistes, qui était l'invité de BFM TV cet après-midi. Et puis après les Jeux Olympiques, l'heure est au premier bilan au niveau sportif, mais pas seulement. Le secteur du tourisme et de la restauration constate une amélioration depuis la fin du mois de juillet et le début du mois d'août. Qu'en est-il pour le secteur du commerce? Nous verrons cela dans un instant avec notre invité Johan Petiot, directeur général de l'Alliance du Commerce. Juste avant, un point d'étape avec Zidane Azouzi qui nous fait un point sur les enseignes de sport qui ont réussi à surfer sur l'engouement des Jeux Olympiques.
Chez Decathlon, partenaire officiel, la fréquentation globale a augmenté de 14% depuis le début des Jeux dans ses magasins et de 10% sur son site internet. L'entreprise indique aussi avoir vendu 40% de produits de plus que prévu avec la licence JO. Même constat chez Intersport, l'entreprise se félicite d'une poussée à deux chiffres de son chiffre d'affaires. Le magasin du Forum des Halles à Paris a noté une demande croissante de maillots siglés Paris 2024. Désormais les JO clôturés, l'engouement va-t-il perdurer? Stock trop important, prix trop élevé? Chez Intersport, les maillots et shorts de la marque Coq Sportif estampillés JO sont déjà en promotion. La réduction oscille entre moins 20% pour les maillots enfants et moins 40% pour les adultes. Mais les enseignes se préparent à une rentrée sur les chapeaux de roue portés par la hausse des inscriptions dans les clubs. Selon l'Union Sport et Cycle, en septembre, la part de nouveaux licenciés pourrait grimper jusqu'à 25%.
Voilà donc pour les détails de Zidane Azouzi. Et pour approfondir ce sujet, nous sommes en ligne ce soir avec Johan Petiot, directeur général de l'Alliance du Commerce. Bonsoir Johan Petiot, merci d'avoir répondu à l'appel de BFM Business ce soir. Bonsoir. Directeur général donc de l'Alliance du Commerce. Bon, nous sommes le mardi 13 août. Ça y est, ça fait deux jours que nous avons tourné la page des Jeux Olympiques. On se souvient que les soldes avaient été un petit peu compliqués, hein, fin juin, début juillet. Bon, quel premier constat pouvez-vous faire à l'Alliance du commerce sur ces derniers jours? Est-ce que les Jeux Olympiques ont réussi à réveiller un petit peu le secteur du commerce?
Alors déjà, merci pour votre invitation. On se réjouit déjà tous du grand succès qu'ont apporté les Jeux Olympiques. Mais alors, c'est vrai que pour le commerce, le bilan est un peu plus mitigé. Vous savez, Paris avait souffert, notamment au mois de juin et au début du mois de juillet. L'activité a un peu repris à Paris, mais est restée très inférieure à ce que nous avons observé sur l'ensemble du territoire. Pour vous donner un exemple, sur la première semaine des Jeux Olympiques, dans le secteur de l'habillement, l'activité à Paris était inférieure de 8 points à ce que nous avons observé dans le reste du territoire. Par contre, ce qui est très intéressant de noter, c'est que la région parisienne, hors Paris, elle, a surperformé durant cette période, très probablement parce qu'un grand nombre de touristes et de visiteurs pour les Jeux Olympiques ont résidé dans la région parisienne, qu'il était peut-être aussi plus facile pour les Franciliens de se déplacer dans la région parisienne, donc ils sont moins venus sur Paris où quand même les restrictions de circulation ont été nombreuses. Donc pour l'instant, c'est plutôt un bilan mitigé pour Paris, mais nous y attendions, hein, sur le plan commercial, il n'y a pas de surprise, c'est ce que nous avions déjà observé pour les JO de Londres. Par contre, ça a été une superbe image, une superbe fenêtre ouverte sur Paris donnée sur le monde. Et donc, on espère véritablement des retombées dans les mois à venir.
Donc, confiant à moyen long terme, à court terme, comment voyez-vous la rentrée? On voit que dans différents pays, bon, ça y est, on rentre un petit peu dans le dur, dans le secteur de la consommation. Comment vous préparez-vous à ce mois de septembre?
Alors, la rentrée va être extrêmement importante. Si on reste sur les JO, la rentrée à Paris pour les commerçants va avoir une grande attention parce qu'on sait que les difficultés de circulation, les restrictions liées quand même aux épreuves vont perdurer jusqu'à la fin du mois de septembre. Or, la période de fin août, début septembre, la rentrée scolaire est toujours un temps fort commercial pour de nombreux commerçants. Donc, une très forte attente. Et en général, sur l'ensemble du pays, bien sûr, nous sommes très attentifs à ce qui va se passer sur le volet de la consommation parce que dans le secteur de l'habillement, en tout cas, c'est un marché en recul maintenant depuis de nombreuses années, très contraint par les difficultés de pouvoir d'achat des Français. Donc, nous espérons véritablement qu'il y aura une relance de la consommation et un pouvoir d'achat un peu plus soutenu pour cette rentrée.
Merci beaucoup, Johan Petiot, de nous avoir accompagné ce soir, directeur général de l'Alliance du Commerce, qui était donc avec nous en direct sur BFM Business. Si le sujet du commerce au global vous intéresse, restez avec nous à 18h30. Nous serons avec Virgile Caillé, délégué général de l'Union Sport et Cycle, pour entrer un petit peu plus dans le détail du secteur du commerce, mais plus sous l'angle Jeux Olympiques. Est-ce que ça y est, ça a été une bonne pub, hein, ces Jeux Olympiques pour le secteur du sport, pour les fédérations, pour les enseignes? Nous verrons cela donc dans un peu plus d'un quart d'heure. Juste avant, restez avec nous dans un instant, nous allons recevoir notre prochain invité pour parler du secteur automobile, le secteur allemand qui, ça y est, a publié ses résultats qui sont désormais clos pour l'ensemble des acteurs, avec Porsche Holding qui a dévoilé ses résultats ce matin, et on va le voir, c'est plutôt nuancé. À tout de suite.
BFM Business présente Actu, experts, débat et interview des grands acteurs de l'économie. Étienne Brack. Good evening business.
18h19 sur BFM Business, c'est Good Evening Business, c'est BFM Business, et on vous propose de faire un petit focus sur le secteur automobile en Allemagne qui souffre ces derniers jours, avec notamment Porsche Automobile SE qui a publié ses résultats ce matin. C'est la holding de Porsche, hein, qui compte de nombreuses marques, de nombreuses participations. Résultats qui ont été publiés quelques jours après Mercedes, qui avait aussi révisé ses prévisions à la baisse pour cette année. Pour parler de ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir ce soir Renaud Kayanakis. Bonsoir Renaud Kayanakis, merci d'être avec nous sur BFM Business. Vous êtes directeur associé chez SIA Partners, secteur automobile qui souffre dans son ensemble en Europe avec le ralentissement économique qui est en cours. Mais alors pour le secteur allemand qui est très exportateur, c'est compliqué en ce moment. On le voit une nouvelle fois avec Porsche qui revoit à la baisse ses prévisions pour cette année.
Alors en effet, c'est une situation qui est un peu délicate sur le marché allemand, qui de surcroît est un peu le baromètre européen qui nous permet d'avoir une vue anticipée du marché automobile. À ça, on a deux explications majeures. La première, c'est qu'on a eu une baisse drastique des ventes de véhicules électriques, et notamment liée à la fin des subventions sur le marché domestique allemand par le gouvernement allemand. Et puis le deuxième élément, c'est qu'on a une baisse des parts de marché sur un marché qui est en pleine croissance, qui est le marché chinois, où on voit que les marques comme Volkswagen ont perdu leur position de leader sur ce marché-là. On a une compétition féroce sur le marché chinois, qui a des situations de coûts très différentes de ce que peuvent avoir les constructeurs allemands. Et donc, des stratégies de ces constructeurs allemands pour pouvoir, d'une part, s'implanter correctement en production pour rivaliser au niveau des coûts, et puis reprendre des parts de marché sur ces marchés qui sont, quand on parle d'un marché comme le Volkswagen, qui représente 45% de la totalité de ses ventes. Donc,
pas de sanctions des marchés, c'est juste une situation un peu normale et dans laquelle d'ailleurs on a une marque BMW qui s'en sort très bien sur le marché allemand, puisque BMW a su tirer de la croissance sur les véhicules électriques et puis poursuit sa croissance sur l'exportation.
Avec aujourd'hui un secteur automobile qui est un petit peu en souffrance hein, en Europe, hein, on le voit avec notamment Stellantis, que ce soit en bourse mais aussi au niveau opérationnel, ça commence à se tasser un petit peu. En Allemagne, c'est vrai que c'est un secteur qui est très exportateur, hein, le secteur automobile, exportateur surtout vers la Chine. Hein, quand on regarde Mercedes, la Chine c'est tout simplement son premier marché.
Ben, tout à fait, et puis il faut avoir en tête qu'avec les restrictions... et notamment les barrières à l'entrée que met en place l'Europe vis-à-vis de la Chine, cette fois-ci pour les importations de véhicules chinois. On s'attend à une riposte de la Chine sur ces barrières, du coup, à la sortie, à l'exportation des véhicules. Constructeurs allemands. Et donc, il y a une nécessité aujourd'hui de revoir les modèles économiques, revoir les modèles de production, ce que font certains constructeurs qui s'implantent du coup directement sur le marché local en Chine pour pouvoir avoir une structure de coût permettant de rivaliser, notamment sur les modèles d'entrée de gamme qui aujourd'hui sont les modèles sur lesquels les ventes s'enflamment en Chine. On n'est plus du tout sur des modèles de véhicules électriques sur du haut de gamme. Donc ça, c'est une part importante de la stratégie des constructeurs. Et puis la deuxième part importante, c'est poursuivre cette course aux véhicules électriques sur nos marchés domestiques. BMW réussit correctement puisqu'il a plusieurs modèles à une gamme assez large, ce qui n'est pas le cas de Mercedes, ce qui n'est pas le cas de, j'irais, des constructeurs Volkswagen, Audi, qui ont une nécessité aujourd'hui d'aller chercher du client sur des véhicules d'entrée de gamme électriques pour permettre d'atteindre les objectifs que s'est fixé l'Allemagne, à savoir 15% de son parc véhicule en électrique dès 2030.
Est-ce qu'aujourd'hui, ça y est, les constructeurs ont trouvé une certaine forme d'équilibre avec l'électrique, puisqu'il y avait quand même pas mal de réticences du côté des constructeurs, mais aussi du côté des clients, avec notamment une concurrence qui est féroce de la part des Chinois sur leur marché, mais aussi désormais sur les marchés extérieurs, notamment l'Europe?
Alors, sur la partie électrique, aujourd'hui, clairement, avec la remise à niveau, je dirais, structure de coûts sur le marché domestique, on n'a plus d'agressivité concurrentielle de la part des Chinois et on se retrouve, à situation équivalente de compétitivité. Donc du coup, ça laisse présager de bonnes années sur le marché européen pour les constructeurs européens. Ça, c'est une première chose. Et puis après, il en demeure pas moins que les clients aujourd'hui, qui sont donc, qui sont les déclencheurs de ces ventes de véhicules électriques, ont été habitués à des conditions tarifaires qui étaient dopées par les subventions des différents États. Et quand on met un stop à ces subventions, on revient dans un marché qui est plus naturel. Et donc, on n'a plus les mêmes niveaux de croissance qu'on a pu connaître, notamment sur 2023. Et on a un premier semestre 2024 qui est plus compliqué sur l'électrique qu'il ne l'a été sur ce premier semestre 2023.
Quelles sont vos prévisions aujourd'hui chez SIA Partners pour ce secteur automobile, dans un contexte de ralentissement économique et dans un contexte surtout de concurrence de plus en plus féroce?
Alors, les prévisions, en tout cas sur 2024, elles restent globalement positives. Hein. On ne va pas aller à l'encontre, je dirais, des annonces qui ont été faites par les uns et les autres. Je pense que les constructeurs font des alertes lorsque c'est nécessaire, notamment en termes de communication financière. On reste sur un marché qui n'est pas sur un marché en forte croissance, en tout cas sur les marchés domestiques, et c'est logique. On reste sur un marché où il y a de belles opportunités, notamment sur les marchés, sur le marché chinois. Faut avoir en tête que le marché chinois va passer de 22 millions de véhicules à 26-28 millions de véhicules d'ici 2026. Donc on est sur des fortes croissances qu'on connaîtra jamais sur nos marchés domestiques. Et les constructeurs ont pris conscience de la nécessité de s'implanter sur ces marchés à l'étranger, et notamment en Chine, et de s'implanter durablement avec des plateformes communes, avec des stratégies de partage de joint venture, de partage industriel pour pouvoir avancer de concert, notamment sur le cœur de métier de l'électrique qui est la batterie.
Et vous pensez aujourd'hui que ça va reprendre? Quand vous regardez Mercedes, c'était quand même nuancé, hein, avec des ventes en Chine qui ont baissé de 9% sur la première partie de l'année, avec aussi des taxes douanières qui sont de plus en plus importantes. Enfin, c'est vrai que c'est pas évident pour les constructeurs de s'immiscer dans un marché dans lequel il y a des tarifs douaniers qui sont imprévisibles.
Alors tout à fait, mais d'un autre côté, c'est l'Europe qui a donné le là en matière de conditions douanières, hein, quand on a modifié les structures douanières dès le début du mois de juillet. Après, pour Mercedes, on est sur un cas plus particulier, puisqu'on est quand même sur une marque qui dispose d'une largeur de gamme qui est bien moindre que ce qu'on peut avoir au sein du groupe Volkswagen ou du groupe Audi, et encore moins à ce que propose BMW. Et puis après, on est quand même sur un marché où nous, Européens, on a une longue avance sur tout ce qui concerne les véhicules utilitaires d'une part et les véhicules à destination des entreprises. On compare assez souvent les ventes au niveau des véhicules, particuliers. Sur les véhicules utilitaires, aujourd'hui, on est largement encore en avance, et Mercedes aussi est en avance sur un certain nombre de concurrents chinois, si tant est que Mercedes, comme les autres constructeurs, soit capable d'avoir une amorce et une transition vers l'électrique accélérée. Aujourd'hui, c'est vraiment le nerf de la guerre, c'est d'arriver au plus vite possible sur le tout électrique.
En effet, au point que Mercedes a certes revu à la baisse ses prévisions pour le segment voiture, mais elle a hausse son segment camionnette. Enfin, un dernier mot d'un point de vue catégorie. Est-ce que c'est comme dans d'autres secteurs où vous avez des entrées de gamme qui fonctionnent bien, le moyen gamme qui rame un petit peu, puis à l'inverse, le hard luxury qui fonctionne très bien? Quand on regarde le cas de Ferrari, c'est l'un des constructeurs aujourd'hui qui s'en tient le mieux, hein, dans ses publications financières.
Alors, Ferrari, c'est un cas particulier. J'en parlais à vos confrères il y a quelques semaines. C'est un cas particulier parce qu'on n'est plus sur du véhicule, on est sur un produit de luxe, un produit d'exception. Et il reste sur notre planète un certain nombre de personnes qui sont prêtes à se battre pour récupérer une place dans la file d'attente de Ferrari. Non, en effet, il y a une vraie situation qui est compliquée pour l'entrée de marché sur le véhicule électrique, tout simplement parce qu'on a une équation budgétaire qui est compliquée pour les constructeurs. C'est difficile aujourd'hui de sortir un véhicule à moins de 20 000 euros lorsqu'il est électrique, et pour autant, le pouvoir d'achat des Français, des Allemands, des Européens, etc., ne permet pas de dépasser ce type de budget. Donc sur le segment de milieu de marché ou de haut de marché, on arrive à faire de l'électrification assez facilement et sans douleur. Sur le bas de marché, c'est plus compliqué, et l'équation ne sera résolue que lorsqu'on aura des économies d'échelle liées d'une part à des plateformes communes, d'autre part à des productions sur place, en circuit court, et puis une volumétrique qui permet. Après, on est en tout cas sur les marchés européens, sur des constructeurs qui sont capables aujourd'hui de faire évoluer leur chaîne de production pour les faire passer du thermique à l'électrique au gré des commandes. Et là aussi, on est sur une flexibilité qui est très importante sur ce marché automobile.
Très clair. Merci beaucoup Renaud Kayanakis de nous avoir accompagné ce soir, directeur associé chez SIA Partners, afin donc de nous aider à décrypter ce secteur automobile, en particulier le secteur automobile allemand. Restez avec nous. Dans un instant, nous allons parler du secteur du commerce, mais avec l'angle des Jeux Olympiques, hein, puisque ça y est, les Jeux Olympiques se sont clôturés dimanche, avant les Jeux Paralympiques qui vont prendre le relais à la fin du mois d'août. Et une tendance qui est vraiment très forte, hein, ces derniers jours, que ce soit sur les articles de sport, mais aussi sur les clubs de sport. Nous allons voir cela dans un instant avec Virgile Caillé. Juste avant, c'est le rappel des titres.
BFM Business, l'info éco.
En effet, juste avant, rappel des titres à 18h30 avec l'actualité qui est une nouvelle fois dominée par la crainte d'un embrasement au Proche-Orient. L'Iran a rejeté aujourd'hui l'appel des pays occidentaux à renoncer ses menaces contre Israël. Téhéran assure ne pas avoir demandé l'autorisation de riposter contre l'État hébreu après l'assassinat du chef du Hamas. Encore aujourd'hui, la Maison-Blanche se prépare au pire, au point que Washington dit prévoir une série d'attaques conséquentes de la part de l'Iran cette semaine. À noter qu'une roquette s'est écrasée au large de Tel Aviv aujourd'hui, selon l'armée israélienne. Un tir aurait été mené depuis la bande de Gaza et revendiqué par la branche armée du Hamas palestinien. Après l'OPEP hier, c'est au tour de l'Agence internationale de l'énergie de revoir à la baisse ses prévisions pour le marché pétrolier. Pour 2025, l'AIE prévoit une croissance toujours importante mais un peu plus faible qu'anticipée en termes de demande de production de pétrole. En cause, une reprise lente en Chine. La contribution de la Chine devrait d'ailleurs baisser d'une façon significative cette année. Puis dans l'actualité des entreprises coup de tonnerre chez Starbucks. L'enseigne américaine, sous pression depuis plusieurs semaines de la part de fonds activistes, va changer de patron à la rentrée, ce qui plaît à la bourse. Vous avez un titre qui prend quasiment 20% à Wall Street. C'est Brian Nicol, l'actuel directeur général de la chaîne de restauration Chipotle, qui occupera le poste à partir du mois de septembre. Un changement qui, à l'inverse, déçoit les actionnaires de Chipotle. L'action perd un peu plus de 10% aux États-Unis. Et puis, autre entreprise qui connaît des secousses aujourd'hui, c'est Vestas, numéro 1 mondial dans le secteur des énergies renouvelables, mais du côté des éoliennes. C'est une entreprise danoise qui va publier ses résultats demain, mais qui a d'ores et déjà averti qu'il ne tiendrait pas ses prévisions annuelles, en cause l'inflation et la remontée des taux. 17h, 18h31, c'est parti, on accueille notre deuxième invité pour parler du sport juste après les Jeux Olympiques.
Good evening business. Actu, experts, débat et interview des grands acteurs de l'économie.
Et à 18h33, c'est Virgile Caillé qui est avec nous, délégué général de l'Union Sport et Cycle, afin de parler de l'effet JO qui se traduit dans les boutiques et même dans les clubs de sport. Bonsoir Virgile Caillé, merci d'avoir répondu à l'appel de BFM Business. Vous êtes donc délégué général de l'Union Sport et Cycle. Juste avant de parler du sujet, rappelons qui est l'Union Sport et Cycle.
Oui, en quelques mots, bonsoir à tous. Il s'agit de la fédération professionnelle du secteur de l'industrie et du commerce du sport. Donc en gros, nous sommes une organisation patronale qui rassemble toutes les entreprises de l'industrie et de l'économie du sport. Voilà.
Donc vous allez pouvoir nous aider concrètement à avoir cet effet Jeux Olympiques, avec visiblement des magasins de sport qui font le plein depuis quelques heures, même des coups de téléphone là qui sont passés dans les clubs afin de rejoindre les rangs au mois de septembre. Quel est votre point de vue? Comment vous voyez cela aujourd'hui à l'Union Sport et Cycle?
Alors effectivement, c'est très tôt pour tirer des enseignements très précis de la situation. Néanmoins, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a eu une telle ferveur, un tel engouement, que ça a suscité beaucoup de vocations, beaucoup d'intérêt de la part de tous les Français, et que effectivement, on s'attend à ce qu'il y ait une ruée des Françaises et des Français vers les clubs sportifs, que ce soit d'ailleurs des salles de sport marchandes ou bien des clubs associatifs. Et mécaniquement, cela aura une répercussion sur le marché des articles de sport et de loisirs. Et ça tombe bien en vérité, parce que c'est un secteur qui était un petit peu dans la difficulté sur ce premier semestre 2024. On a connu un semestre à tône. Ça faisait 10 ans que nous étions en progression régulière, et là, depuis 6 mois, eh bien, le marché s'est essoufflé. Une phase un petit peu de plateau, j'oserais dire, alors qui est liée à plusieurs facteurs. Évidemment, le contexte politique, économique, beaucoup d'anxiété de la part des foyers français qui ont repoussé certains achats, et puis également une météo qui était vraiment défavorable pour la pratique des activités physiques et sportives. Et effectivement, depuis quelques semaines, depuis peu de temps, on sent bien cet effet JO quand même, on voit réapparaître un peu plus de dynamique sur le marché, un peu plus de consommateurs. Voilà, on espère que ça va s'inscrire dans la durée, évidemment.
Est-ce que c'est une nouveauté lors de cette édition des Jeux Olympiques 2024, en plus à domicile, ou est-ce que c'est un phénomène que vous avez constaté lors des précédentes éditions des Jeux Olympiques ?
Alors, c'est un phénomène qu'on rencontre lors de chaque grande compétition internationale de cette envergure. Il y a toujours une augmentation à la fois de la pratique et mécaniquement de la consommation. En général, on l'estime de l'ordre de 10%, mais il est évident que compte tenu des jeux tout à fait exceptionnels que nous avons pu vivre, et je pense que tout le monde s'accorde à dire que c'était une formidable réussite, on s'attend à un afflux de pratiquants sportifs de l'ordre de 20 à 25% pour certains sports qui ont vécu de très belles performances des athlètes français. Et la difficulté aujourd'hui, ça va être effectivement de savoir les accueillir dans nos clubs. Est-ce qu'on aura l'encadrement nécessaire? Est-ce qu'on aura les infrastructures, les équipements nécessaires? Mais en tout cas, c'est un phénomène auquel on pouvait s'attendre, mais certainement pas de cette envergure. Et il y a un enjeu majeur, c'est ce qu'on appelle souvent l'héritage, à ce qu'on sache maintenir ce phénomène dans la durée. Et pour ce qui concerne les articles de sport et de loisirs, mécaniquement, le secteur économique va bénéficier de cet engouement et cette volonté des Français d'avoir une activité physique.
Avec peut-être un effet similaire à ce que l'on a pu voir à la sortie des confinements lors des Jeux Olympiques. On se souvient qu'à l'époque, tout le monde était confiné, enfermé chez soi, et juste après, il y avait une envie de se dépenser, de faire du sport, d'aller dans un club, de retrouver d'autres personnes.
Alors, vous avez raison de faire ce parallèle. C'est vrai que l'activité physique était recommandée, on peut s'en souvenir, au moment de la crise sanitaire. C'était une des activités que les Français en éprouvaient le besoin, que ce soit pour des questions d'ailleurs de santé physique, mais aussi psychique. Mais là, je pense qu'on est vraiment, vraiment, compte tenu des jeux que nous venons de vivre, sur une autre dimension. Il y a une ferveur, quelque chose de très profond. J'ai l'impression que l'opinion publique à une prise de conscience de ce que le sport, ça va au-delà du sport. Ce qu'on a vécu dans les stades, cette ferveur populaire, je me répète, cette envie de vivre ensemble, de fêter les médaillés ensemble, eh bien, je l'espère, ça va se retrouver dans les clubs. Encore une fois, que ce soit la pratique dans les clubs associatifs ou dans les salles de sport, les clubs marchands, peu importe, il faut que tous les Français viennent à l'activité physique et sportive. Et bien entendu, ça va aussi créer une dynamique assez extraordinaire pour le secteur des articles de sport et de loisirs. J'insiste, c'était un secteur qui a connu 6 mois assez tristes, assez moroses, un petit peu comme le moral des Français finalement. Et donc, c'est très bien qu'on retrouve cette belle dynamique.
Bon, pour les clubs, le plus dur sera de gérer cet engouement, sachant que certains clubs sont déjà pleins depuis la saison dernière, depuis le mois de juin. Donc là, ça va être compliqué.
Ah, exactement, vous avez raison. Alors, il y a effectivement la capacité d'accueil. Je pense notamment à l'encadrement, les bénévoles. Vous savez qu'on a un système sportif qui s'appuie beaucoup pour les clubs associatifs sur le volontariat, sur le bénévolat. Mais il ne faut pas négliger non plus la problématique des équipements sportifs. Et là, les collectivités vont également être face à une situation délicate parce qu'il va falloir accueillir des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de jeunes sportifs et des moins jeunes d'ailleurs dans nos clubs partout en France, que ce soit en zone urbaine, que ce soit en zone rurale. Alors, il y a aussi la possibilité d'aller dans les clubs privés, vous savez, les salles de sport, de fitness, de foot à 5, etc., qui sauront eux aussi accueillir ces pratiquants qui vont affluer en nombre. Mais l'important, il va falloir que l'ensemble des acteurs, l'ensemble des parties prenantes, que ce soit les collectivités, les acteurs économiques ou le mouvement sportif, et bien que tout le monde travaille en commun pour faire en sorte que cette vague tout à fait exceptionnelle, on arrive à la maintenir dans la durée. C'est vraiment ça, je pense, l'enjeu essentiel de l'héritage de Paris 2024.
Dernière question, Virgile Caillet, peut-être une idée sur les sports qui seront les plus plébiscités à la rentrée. Est-ce que là aussi, il y a un effet JO, peut-être sur la natation, le tennis de table ou autre?
Ah, c'est évident qu'il y aura un effet sur les belles médailles, sur les belles histoires, sur des champions qui ont marqué aussi par leur personnalité. On pense, vous l'avez dit, à Léon Marchand. Je pense que le judo va faire le plein aussi, c'est évident. Et puis les sports collectifs qui ont montré une image assez exceptionnelle. Le volley, le basket, le rugby à 7 aussi, qui va forcément bénéficier de cet engouement. Vous savez, en France, on a la chance vraiment d'être présent sur énormément de disciplines. Je crois que, je veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est 19 ou 20 disciplines qui ont été médaillées pour la France. C'est beaucoup plus que toutes les autres nations. Et donc, je pense qu'il y a tous les sports vont bénéficier de cet engouement et c'est une excellente chose.
Merci beaucoup Virgile Caillet de nous avoir accompagnés ce soir. Je rappelle que vous êtes délégué général de l'Union Sport et Cycle. Merci de nous avoir accompagnés afin de faire un premier point juste après ces Jeux Olympiques sur l'engouement dans les magasins, mais pas seulement dans les clubs de sport également. Le tout quelques heures après l'édition de ces Jeux Olympiques qui ne sont pas terminés puisque ça va reprendre à la fin du mois avec les Jeux Paralympiques. Restez avec nous, on se retrouve dans un instant sur BFM Business.
Good evening business. Actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie.